France Musique.
L'heure d'un nouveau journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. L'icône de la gauche brésilienne en capacité de revenir sur le devant de la scène politique. La justice vient en effet d'annuler toutes les condamnations prononcées contre Lula. Toujours très populaire, l'ancien président pourrait faire campagne contre Jair Bolsonaro avec l'espoir de revenir donc aux affaires en 2022. Olivier Pouged.
Compte tenu des réactions clairement hostiles du camp Bolsonaro, le procureur général brésilien va vraisemblablement faire appel de la décision du juge de la Cour suprême, Edson Fachin, décision qui a déclaré incompétente la justice de l'État de Curitiba dans ces deux affaires de corruption ayant conduit l'ancien président Lula à être condamné à deux reprises en appel. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a lui-même contre-attaqué et estimé qu'Edson Fachin avait toujours eu un lien fort avec le Parti des travailleurs avant d'évoquer le brigandage de l'ancien gouvernement de gauche de Lula. Il y a donc peu de doute sur le fait qu'une analyse juridique sera demandée par le procureur, mais en attendant, Lula peut de nouveau se lancer dans une candidature à la présidentielle de 2022, un scénario idéal pour les électeurs brésiliens qui n'ont Dieu que pour les personnalités politiques fortes. Le duel Bolsonaro-Lula serait un duel parfait pour les Brésiliens, l'affrontement direct entre populisme de gauche et populisme de droite, un duel que permet aujourd'hui la justice brésilienne, accusée dans un premier temps d'avoir été politisée lorsqu'elle a écarté Lula de la course à la présidentielle en 2017 et qui, dans un parfait timing politique, le remet en selle à 20 mois du scrutin de 2022.
Une promesse de Joe Biden qui se concrétise. Le président américain accorde une protection temporaire à tous les migrants qui ont fui la crise au Venezuela et qui se trouvent actuellement sur le sol des États-Unis. On parle ici d'au moins 320 000 personnes qui pourraient donc notamment obtenir un permis de travail. D'après les chiffres de l'ONU, plus de 5 400 000 habitants ont quitté le Venezuela ces dernières années. Alors que les manifestations contre le pouvoir reprennent en Algérie, le ministre de l'Intérieur a présenté la semaine dernière un projet de loi qui veut déchoir de la nationalité algérienne tout ressortissant commettant à l'étranger des actes préjudiciables aux intérêts de l'État, une déchéance politique qui provoque un tollé et inquiète notamment Christian Cheynaud, celles et ceux qui disposent de la double nationalité. Pour le mouvement du Irak, il s'agit pour l'exécutif de museler encore un peu plus les voix contestataires des Algériens de l'étranger.
Aussitôt annoncé, le projet de loi a suscité une immense vague de critiques et d'indignation dans l'opinion publique algérienne. Des internautes, des militants des droits de l'homme, des juristes et des intellectuels ont dénoncé une grave dérive du pouvoir, une manœuvre pour faire taire les voix contestataires qui s'expriment à l'étranger, notamment en France, en les menaçant de les déchoir de leur nationalité algérienne. La presse à Alger rappelle que de nombreux manifestants du Hirak ont été emprisonnés pour atteinte à l'unité nationale. Deux anciens ministres appellent donc au retrait pur et simple d'un texte qu'ils qualifient de proposition inutile et singulière qui procède de la dérive totalitaire systémique activée chaque fois que le peuple réclame plus de liberté. Comme un chiffon rouge agité maladroitement par le gouvernement algérien, le projet de loi offre surtout un nouveau motif aux militants du Hirak pour descendre dans la rue et défier les autorités.
Très grièvement blessé hier soir après de nouveaux affrontements entre bandes rivales en région parisienne, un adolescent de 14 ans est toujours ce matin entre la vie et la mort. Sur Twitter, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dénonce cette guerre des bandes qui continue et plaide pour qu'on arrête, dit-elle, l'angélisme dans ce genre d'affaires. L'enveloppe de 19 milliards de dollars avait été négociée en juillet dernier pendant le Ségur de la Santé qui avait, dans un premier temps, on s'en souvient, abouti à une revalorisation des salaires pour les personnels soignants. Cette fois, il s'agit donc d'investir dans les hôpitaux, mais aussi les EHPAD pour moderniser les établissements. La ventilation des dépenses à venir sera détaillée d'ici quelques heures par le Premier ministre à l'occasion d'un déplacement dans le département de la Nièvre. Le gouvernement parle de sommes historiques, mais quand on y regarde de plus près, Anne-Laure Jumet, on se rend compte que ces sommes ne sont pas nouvelles.
6 milliards d'euros ont en effet déjà été annoncés dans le cadre du Ségur de la Santé, tandis que 13 milliards sont de la reprise de dette des hôpitaux actée l'été dernier. Au total donc, 19 milliards d'euros sur 10 ans, dont le tiers est financé par le plan de relance européen. Mais pourquoi faire ? Eh bien l'objectif, c'est d'aider les hôpitaux les plus endettés à retrouver des marges de manœuvre financières pour réaliser des investissements courants comme le renouvellement du matériel. Des sommes qui financeront aussi le secteur sanitaire, médecine de ville, maisons de santé pluridisciplinaires, centres de santé. Une partie de l'enveloppe sera également dévolue aux EHPAD pour augmenter les capacités d'accueil, moderniser les installations. Enfin, des montants sont prévus pour rattraper le retard des établissements dans le numérique. Et le gouvernement promet un changement de méthode. Ce sont les agences régionales de santé qui feront remonter les besoins. Elles ont jusqu'à la fin de l'année pour communiquer à l'État les projets prioritaires.
Et puis je vous rappelle qu'en Ile-de-France, les hôpitaux et les cliniques vont devoir déprogrammer 40% des opérations. Il faut en effet trouver des places, mais aussi du personnel supplémentaire pour accueillir les patients qui souffrent du Covid-19. 400 lits de plus devraient ainsi être libérés dans les tout prochains jours, d'après les calculs de l'Agence régionale de santé. Des éclaircies quasiment partout. Aujourd'hui, les nuages et les averses se limiteront à la Corse et aux Pyrénées. Une nouvelle perturbation est en revanche attendue la nuit prochaine. Les températures iront cet après-midi de 9 à 16 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
À demain, 7h, Olivier Denré, bonne journée.
Bonne journée à vous, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.